Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur Graphite 94.9. Vous écoutez toujours, comme cet après-midi, les projets de fin de les projets du semestre réalisés par des étudiantes et des étudiants de l'UVWE01 à l'UTC, qui traitent des problématiques, qui se questionnent en fait sur les problématiques autour du web et du numérique. Pendant tout le semestre, les étudiantes et les étudiants ont travaillé sur des articles de presse, des articles scientifiques, ont étudié les concepts du cours et dans ces projets, restituent ses travaux et produisent aussi des liens, des réflexions, des articulations entre ces articles et ces concepts. Pour cette troisième émission donc, de l'après-midi, je suis avec Hugo, Thomas, Shaima et Yann. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous, Thomas et Hugo, vous avez travaillé notamment sur le concept de données personnelles et puis sur le tracking publicitaire, notamment au vu des évolutions légales. Et puis vous, Shaima et Yann, vous avez travaillé sur la question de la dépendance, notamment aux États-Unis, ces gros fournisseurs de services web. Et puis aux questions de est-ce qu'il est possible de construire, d'imaginer des alternatives. Eh bien, c'est à vous, Thomas Hugo, pour commencer.
Alors, bonjour à tous. Donc, dans le cadre de l'UVWE01, dédié à la culture scientifique, nous réalisons l'étude d'un article ainsi que l'explication d'un des concepts abordés lors du cours. L'article se nomme « Avec les signaux résilients de Facebook, la surveillance publicitaire évolue ». Il a été publié par Pixel de Tracking le 3 août 2021. Ce dernier traite des moyens employés par Facebook dans le but de traquer ses utilisateurs afin de faire du chiffre d'affaires par le biais de publicité et des annonceurs. Notre concept est celui de la donnée personnelle, issue du cours. Les vrais clients des GAFAM, ciblage et publicité. Notre but est de développer ce concept et ce qu'il définit. Cela nous permet d'évoquer la problématique suivante. Quelles sont les méthodes employées par Facebook afin de récolter nos informations et de quoi parlons-nous vraiment lorsqu'on évoque les données personnelles? Donc, tout d'abord, nous allons analyser le concept de données personnelles. Une donnée personnelle est, d'après le CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Mais parce qu'elle concerne des personnes, celles-ci doivent en conserver la maîtrise. Toujours d'après le CNIL, une personne peut être identifiée directement, par exemple grâce à son nom ou son prénom, et indirectement, par exemple grâce à son numéro de téléphone, sa plaque d'immatriculation, son identifiant comme son numéro de sécurité sociale, ou encore grâce à des images. Les données personnelles sont en France définies par le CNIL, une commission du numérique depuis 1978. La première directive européenne sur la protection des données personnelles date de 1995. Depuis 2018, le traitement des données personnelles est régi par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui impose aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'encadrer leur collecte de données personnelles. Le RGPD s'appuie sur 6 grands principes. Ne collecter que les données vraiment nécessaires pour atteindre leurs objectifs, être transparent, organiser et faciliter l'exercice des droits des personnes, fixer des durées de conservation, sécuriser les données et identifier les risques, et enfin, inscrire la mise en conformité dans une démarche continue. L'arrivée du RGPD a changé l'image de ces données, passant de simples informations informatiques avec une réglementation de base, indiquant principalement que la collecte est autorisée si les informations sont protégées et si elles ne sont ni déformées, ni endommagées ou communiquées à des tiers, non autorisés, à informations sensibles à protéger. De ce fait, les entreprises ont dû changer leurs pratiques et leur rapport aux données personnelles. Par exemple, le RGPD nous permet de demander quelles infos un site a sur nous et de les supprimer. Toutefois, le RGPD est limité dans son champ d'application. En effet, la législation du RGPD se limite aux frontières de l'Union européenne. Ainsi, la situation devient complexe, car même pour des entreprises respectant le RGPD, leur dépendance à une législation extérieure fragilise la protection des données. Par exemple, le Cloud Act américain, une loi fédérale visant à clarifier les conditions dans lesquelles les autorités américaines peuvent exiger l'accès à des données, qui régit Google et Microsoft, par exemple, s'applique en priorité par rapport au RGPD, permettant ainsi de le violer en cas de demande du gouvernement américain, provoquant alors une insécurité massive de nos données personnelles.
Merci Thomas. Désormais, on va passer au résumé de l'article. L'article, rédigé en août 2021, s'inscrit dans un contexte où une énorme fuite des données appartenant aux utilisateurs de Facebook a été dévoilée en avril 2021. 533 millions de comptes ont été touchés par cette fuite. L'auteur de cet article se prénomme Pixel de Tracking et a travaillé dans le domaine de la technologie publicitaire, c'est-à-dire le domaine où les outils et logiciels liés aux publicités numériques sont développés. Tout d'abord, quelle est l'origine des revenus de Facebook ? Facebook, la multinationale fondée par Mark Zuckerberg en 2004, fonctionne selon un modèle économique axé autour de la publicité. En effet, 90% des revenus sont liés aux publicités, ce qui représente donc un facteur essentiel. Afin que Facebook puisse continuer de développer cette opportunité de revenus, deux possibilités sont présentes. Intéresser de nouveaux annonceurs ou permettre aux annonceurs déjà existants de proposer plus de publicité, c'est-à-dire proposer plus d'espace réservé à la publicité. Si ce dernier souhaite attirer des annonceurs, il lui faut quelque chose pour les convaincre. Sa capacité à récolter des données précises concernant ses utilisateurs et permettant de cibler ces derniers au travers des publicités les plus adaptées à nos goûts possibles, et donc les plus susceptibles de nous interpeller. Mais comment Facebook fait-il pour récupérer nos informations ? Nos données ne sont pas uniquement récoltées à travers le réseau social, car Facebook possède d'autres plateformes, telles que Instagram et WhatsApp. De plus, Facebook met aussi à disposition des outils aux entreprises possédant des sites internet pour obtenir nos données, dont la contrepartie de leur usage est l'assimilation de ces mêmes données par Facebook. On retrouve les systèmes tels que des outils pour permettre aux développeurs de mettre en place une monétisation publicitaire, c'est-à-dire leur permettre plus facilement de mettre en place des publicités, aux annonceurs de partager l'activité de leurs clients à Facebook, aux événements d'être remontés à Facebook, et même aux utilisateurs de se connecter à des plateformes en utilisant leur compte Facebook. Malgré tout, il est désormais possible de dissocier ces comptes, ce qui ne veut pas dire que les données ne seront pas récoltées, mais simplement qu'elles ne seront pas associées à votre profil Facebook. Désormais, de nouvelles méthodes sont présentes grâce à l'utilisation de signaux résilients. En effet, suite à l'évolution de la loi, qui proscrit de plus en plus la traque de données, comme le RGPD en 2018, des navigateurs qui bloquent d'eux-mêmes certains trackers, et du comportement des utilisateurs qui sont désormais plus alertes vis-à-vis de leurs données personnelles et utilisent des bloqueurs de pubs et de trackers, Facebook se sert désormais de ses annonceurs pour récolter ces données. Ainsi, Facebook dispose de nouveaux moyens, les signaux résilients. Au lieu de se reposer sur des données stockées au sein de votre navigateur, Facebook compte désormais sur le stockage des informations directement dans les serveurs de ses partenaires. Afin d'expliquer le fonctionnement, il suffit d'imaginer une sortie pour faire du shopping, ce qui représente vos activités sur Internet. Auparavant, un agent de Facebook, qui représente les trackers que Facebook utilise, avait pour mission de vous suivre lors de votre sortie, et vous n'aviez ni la force pour le faire partie, ni les pouvoirs juridiques pour l'empêcher de noter tout ce qu'il vous voyait acheter, observer ou encore raconter à quelqu'un. Cependant, la loi a changé, forçant les agents à dire explicitement quand ils récoltent des données via des cookies, et vous êtes aussi assez rapide pour le semer à l'aide de nouveaux outils. Ainsi, ce dernier a changé de stratégie, s'allier avec les vendeurs. Désormais, même si l'agent n'est pas là pour vous observer, ce sont les vendeurs eux-mêmes, ainsi que tout le personnel du magasin, qui observent vos moindres faits et gestes et partagent jusqu'à vos coordonnées bancaires à Facebook par la suite. Afin de conclure, nous allons passer un extrait audio traitant de l'affaire Cambridge Analytica, où des données récoltées par Facebook ont été détournées par une société britannique.
Dans cette affaire, ce sont 50 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données personnelles utilisées à des finalités autres que les raisons pour lesquelles ils avaient confié donc à Facebook. Et durant 3 ans, donc, Facebook était au courant de cette faille, a laissé faire et n'a alerté personne. Et dans cette affaire, donc, ces données personnelles ont été utilisées apparemment par un cabinet britannique dans le cadre de la campagne électorale du président américain. Donc ça veut dire aussi qu'on a essayé d'influer sur l'opinion de 50 millions d'utilisateurs de Facebook qui n'étaient pas au courant. Ça m'étonne d'une part qu'il y ait une faille aussi énorme sur un système qui, de par sa taille, devrait être extrêmement sécurisé, et de par la confiance que lui font des millions d'utilisateurs dans le monde. Mais ce qui m'étonne peut-être encore plus, c'est que la faille est connue depuis 3 ans. Voilà. Et ça, c'est invraisemblable. Dans le cadre du règlement général de la protection des données européens, qui sera d'application immédiate donc à partir du 25 mai 2018, l'utilisateur a l'obligation de notifier la faille au maximum 72 heures après son autorité de contrôle. Donc ça ne serait pas possible avec cette application.
Merci beaucoup Hugo et Thomas pour cette première partie. Du coup, bah, ça fait bien la transition avec vous, Shaïma et Yann, qu'allez rebondir sur cette question du monopole et de la surveillance de ces grands acteurs américains. C'est à vous.
Bonjour à tous. Donc l'article que nous avons choisi s'intitule « Boycotter la tech américaine, c'est théoriquement possible, mais ça ne va pas être simple », rédigé par Alexandre Laurent le 7 mars 2025 et publié dans Next, un journal ayant pour but d'éclairer l'actualité générale sous l'angle du numérique. L'article explore l'idée d'un détachement volontaire, du point de vue de son auteur, des technologies américaines en termes de matériel, logiciel et services en ligne au quotidien. L'auteur montre comment il met en place le boycott des services des firmes américaines en prenant l'exemple de son ordinateur personnel. Le journaliste met en évidence que la dépendance aux technologies américaines concerne plusieurs niveaux distincts des usages du numérique. Tout d'abord, au niveau du matériel informatique, certains composants essentiels comme les processeurs sont majoritairement conçus par des entreprises américaines. Au niveau des logiciels, les systèmes d'exploitation et les applications les plus utilisées proviennent également en grande partie d'acteurs américains, comme par exemple Windows et macOS qui sont utilisés par l'auteur. Enfin, au niveau des services en ligne, notamment les recherches d'informations qui sont dépendantes de moteurs de recherche exploitant Google ou Microsoft, ou encore des jeux vidéo liés à des plateformes comme Steam, qui est une société américaine, repose sur des plateformes détenues par des entreprises basées aux États-Unis. En revanche, certaines pièces matérielles provenant d'Europe ou d'Asie ne constituent pas un pilier indispensable comme celles produites par des acteurs américains. Par exemple, Alexandre Laurent note que des composants de son poste, tels que l'écran taïwanais ou encore le ventilateur de refroidissement autrichien, ne viennent pas des États-Unis. Cependant, les éléments principaux de son ordinateur, comme le processeur de chez AMD et la carte graphique de chez Nvidia, sont liés à des sociétés américaines. Cependant, il précise que ces alternatives ne garantissent pas toujours une compatibilité complète avec les usages habituels et nécessitent parfois des ajustements. Par exemple, en termes de moteur de recherche, il explique qu'il en existe un complètement départi de Google ou Bing et européen, nommé Good, mais qui est cependant payant, ce qui pourrait devenir dissuasif. Ainsi, selon l'auteur, se départir complètement des technologies américaines reste difficile. Le journaliste définit le boycott de la tech américaine comme un acte politique et éthique, au-delà de son aspect de consommation abusive de produits américains. Il déclare « Si je souhaite boycotter les grandes sociétés américaines, ce n'est pas par rejet de leurs produits, mais plutôt par volonté de ne pas soutenir leur modèle économique dans le contexte géopolitique actuel ». En effet, Alexandre Laurent justifie ce choix en réponse aux nouvelles politiques de droits de douane notamment, instaurées par Trump et visant à faire plus de profits économiques.
On vous propose maintenant un court extrait de Clément Jeannot lors de sa conférence TEDx AgroParisTech intitulée « Le web de demain sera décentralisé ».
Ce qui se joue, c'est rien de moins qu'un nouveau web. Dans ce web décentralisé, les règles de l'économie numérique classique, qui sont fondées sur la centralisation, sont bousculées. Prenons un exemple. Aujourd'hui, pour se financer, une start-up doit convaincre des fonds de capital risque qui vont financer son développement. Dans le web décentralisé, une start-up pourra faire appel à une multitude d'internautes qui viendront injecter non pas de l'euro ou du dollar, mais de la crypto-monnaie. Pour les startups, ça va permettre un accès au financement bien plus égalitaire. Une startup en Afrique pourra lever autant de millions qu'une startup dans la Silicon Valley.
Le concept de décentralisation permet d'envisager autrement le boycott de la tech américaine, notamment grâce à des alternatives comme celle du financement qui vient d'être expliquée. L'objectif de la décentralisation, d'un point de vue technique, est de répartir la gestion et le fonctionnement d'un service entre plusieurs entités plutôt que de le faire reposer sur une infrastructure unique. Aujourd'hui, beaucoup de plateformes numériques fonctionnent de manière centralisée, c'est-à-dire que toutes les données, les décisions et les fonctionnalités passent par une autorité unique. Par exemple, un service de messagerie comme WhatsApp repose sur des serveurs appartenant à un seul opérateur, ce qui signifie qu'une défaillance de ces serveurs entraîne une interruption globale du service. La décentralisation propose une autre approche. Dans une architecture décentralisée, le service est assuré par un réseau de serveurs ou de nœuds distincts, plutôt que d'une infrastructure centrale unique. Toutefois, une architecture techniquement décentralisée n'empêche pas l'existence de formes de décentralisation à d'autres niveaux, notamment économiques ou liés aux usages. Afin d'analyser le caractère décentralisé d'un service, il est donc essentiel de prendre en compte ces niveaux. Par exemple, Internet est une infrastructure décentralisée, car aucun acteur unique contrôle le tout. Il n'existe pas de chef d'Internet. Cependant, de nombreux services présents sur Internet sont centralisés, comme les réseaux sociaux. Il existe des exemples comme Peertube, qui est une alternative à YouTube permettant de partager des vidéos et étant libre, c'est-à-dire que son code source est connu et modifiable par tous. Ce caractère libre ne définit pas à lui seul la décentralisation du service, mais il facilite l'existence de multiples instances indépendantes reposant sur la même base logicielle. Il existe d'autres réseaux sociaux décentralisés où chaque communauté peut créer sa propre instance, à savoir héberger le logiciel tout en restant connecté aux autres, comme par exemple Mastermost, qui est un service de messagerie instantanée libre pouvant être hébergé par plusieurs collectifs différents. Une des raisons pour lesquelles certains proposent des architectures décentralisées est de réduire les possibilités de censure et de surveillance par des pouvoirs politiques ou économiques. Par exemple, dans certains pays où des plateformes ou sites web sont bloqués par les autorités, des technologies décentralisées permettent aux internautes d'accéder à ces contenus sans passer par un serveur central contrôlé par une entreprise ou un État. Toutefois, la décentralisation pose des défis techniques, de sécurité, de synchronisation et de performance, et organisationnels, comme la gouvernance et la modération, est liée à l'adoption par les utilisateurs.
Maintenant, écoutons un extrait d'une émission de Catherine Pétillon intitulée « Surveillance sur le web, comment retrouver le pouvoir d'agir » diffusée par France Culture en 2016.
De développement. Alors bien sûr, Framasoft ne prétend pas concurrencer Google, mais espère avant tout nous faire prendre conscience des enjeux et de l'importance de ne pas mettre tous ses œufs, en l'occurrence toutes ses données, dans le même panier, y compris le leur d'ailleurs. Et puisqu'on parle de panier, eh bien vous connaissez sûrement les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elles rapprochent le consommateur du producteur, on peut même le rencontrer, ce producteur, et lui poser des questions. Framasoft, c'est la même logique, explique Pierre-Yves Gosset, son délégué général. Alors, est-ce que les services auront la même puissance que Facebook et Google ? Réponse, quand on se met au bio, il faut savoir renoncer aux fruits calibrés et brillants, aux tomates du mois de décembre et aux jambons bien roses sortis de l'emballage, mais le goût et la saveur sont tellement meilleurs. Et comme un petit producteur ne peut pas nourrir toute la France, Framasoft a lancé un programme d'essaimage qui répond au doux nom de chaton, en fait un acronyme pour collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
Donc en effet, ne pas mettre ses œufs ou plutôt ses données dans le même panier et pas que chez Framasoft, c'est penser décentralisation. Donc maintenant, on pourra se demander en quoi la collectivité est un outil essentiel à la décentralisation. Dans l'article, l'auteur montre qu'il est théoriquement possible de boycotter la tech américaine, mais qu'en pratique, c'est difficile. Cette difficulté apparaît lorsque, même en remplaçant certains équipements ou services, d'autres usages reposent encore sur des infrastructures ou des plateformes dominées par quelques grandes entreprises. Dans l'article, on comprend cette dépendance persistante à la tech américaine, par exemple, lors de la quête par l'auteur de moteurs de recherche européens qui se révèlent être toujours à l'origine d'une exploitation de l'index de Bing ou de Google pour la plupart d'entre eux. Le concept de décentralisation énonce le fait que les technologies ne devraient pas dépendre d'un petit nombre d'acteurs, mais être réparties entre différents serveurs et outils. Donc la décentralisation ne fonctionne pas si une seule personne change ses outils. Elle suppose que les services eux-mêmes soient conçus différemment dès le départ. En effet, prenons un exemple courant de la vision décentralisée, celui des services fédérés comme Peertube. Un utilisateur peut choisir son instance Peertube tout en restant capable de consulter d'autres vidéos hébergées sur d'autres instances. Le fonctionnement du service repose alors sur l'existence de multiples serveurs indépendants dirigés par différents acteurs et non sur un service central unique. Dans ce cas, on ne dépend pas d'un acteur unique, mais de plusieurs acteurs qui peuvent fonctionner ensemble. Par ailleurs, des organisations fournissent des logiciels libres ou des services décentralisés en les introduisant aux non-connaisseurs sans constituer le centre du système. Par exemple, des associations comme Framasoft proposent des services libres ou des ressources permettant de comprendre et d'utiliser des outils décentralisés. Ces organisations ne décentralisent pas le numérique à elles seules. En effet, si un service reste hébergé, administré et maintenu par une seule structure, le pouvoir technique demeure concentré, même si ce service est libre ou porté par une association. En revanche, elles peuvent aider d'autres collectifs à créer et héberger leurs propres services. La décentralisation repose donc sur l'existence de plusieurs instances indépendantes et non sur le fait que tout le monde utilise un même service, même alternatif. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup, Shaima. On va passer à une musique que vous avez choisie. C'est du coup Réservoir, c'est ça ?
Oui, Réservoir de Josiane Paradis.
Impeccable. C'est parti. Et puis on va voir s'il y a une question qui arrive. On y répondra. Et puis on terminera l'émission avant de continuer sur les prochaines. À tout de suite.
Notre ruisseau est devenu fleuve et c'est bouillant de grands remous. Bien à l'abri, qu'il neige, qu'il pleuve, la glace n'a pas d'emprise sur nous.
De retour sur Graphite 94.9 pour terminer cette émission. Vous avez beaucoup parlé des problématiques que posait la centralisation, notamment en termes de dépendance, bon, je ne vais pas vous répéter, et des possibilités pour redécentraliser. Stéphane, vous demandez qu'est-ce que peuvent faire des étudiants pour aider à ce mouvement de redécentralisation, et plus particulièrement, vous êtes des étudiants et des étudiantes ingénieurs, que peuvent faire de futurs ingés, en fait, concrètement, pour participer à ce mouvement-là?
En tant que futur ingé, du coup, on peut s'intéresser à ce que font des associations comme Framasoft, qui permettent de simplifier l'accès à des logiciels libres ou faire de l'éducation populaire au niveau des non-connaisseurs de ces logiciels et aussi l'intégrer au cours de nos projets à l'UTC, par exemple.
Oui, de manière plus générale, au niveau des étudiants et même des personnes utilisant Internet, on peut généraliser l'utilisation de ces plateformes et de ces outils. Au lieu d'utiliser par exemple des Google Drive, on peut essayer d'utiliser des services de cloud beaucoup plus décentralisés afin de manière générale d'éduquer les personnes sur l'existence de ces logiciels et outils et de répandre l'idée qu'on n'est pas réduit seulement aux GAFAM et aux grosses entreprises, mais qu'on peut aussi tous rendre Internet plus décentralisé et plus accessible pour tout le monde.
Merci beaucoup Hugo. Et en deux mots, Shaïma, si tout le monde va sur Framasoft, est-ce que ça risque pas de faire un genre de Google éthique du libre en français?
Étant donné que Framasoft a monté le collectif Chaton, donc permet du coup de combattre entre guillemets les GAFA, mais tout ce qui permet de capitaliser sur nos données personnelles, on peut plus se renseigner sur ce collectif de chatons qui sont des associations dans la France et qui promeut ce que... Enfin, contrer les GAFAM, quoi.
Oui, non, mais c'est ça. L'idée, c'est d'avoir plein de petites structures, plus ou moins grosses, hein, peu importe, mais plus locales, ancrées, avec une échelle plus modeste qu'une énorme structure qui résout tout et qui a le problème aux solutions, la solution, pardon, au problème de tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, avocate, pour votre travail et votre intervention. On prend une pause de 5-10 minutes et on enchaîne avec les trois dernières émissions de l'après-midi et du semestre qui seront tout aussi passionnantes que celles qu'on vient d'écouter. À tout de suite et bon après-midi à ceux qui nous quittent. Ciao.